Chapitre 19. Richard regarda Kara et Nietzsche. À leur expression, il ne douta pas un instant qu'elle n'avait aucune envie de les laisser en tête-à-tête avec Shota. Il les comprenait et se sentait lui-même beaucoup mieux quand elle n'était pas trop loin de lui. Mais quelques pas de plus ou de moins, il en était convaincu, ne ferait guère de différence. Un peu plus tôt, la voyante avait démontré que ça ne limitait en rien sa capacité de nuire. Le sourcier tenta néanmoins de proposer un compromis qui satisferait tout le monde. « Elles combattent dans le même camp que toi, Shota. En quoi est-il gênant qu'elle... »«
C'est gênant, parce que j'en ai décidé ainsi. »
La voyante tourna le dos à Richard, croisa les bras et se perdit dans la contemplation de la fontaine.
« Si tu veux savoir ce que j'ai à dire, tu dois accéder à mon désir. »
Shota avait-elle des raisons de se comporter ainsi? Ou était-ce une sorte de caprice? Le sourcier n'en savait rien et ce n'était peut-être pas le moment d'essayer de le découvrir. S'il voulait que Shota l'aide, il devait lui faire confiance et dans le même ordre d'idées, Nietzsche et Kara allaient être obligés de se fier à lui. « S'il vous plaît. » Allez toutes les deux rejoindre Zed et Djebra et attendez-moi près d'eux. Nietzsche fut la première à se rendre à la raison, de mauvaise grâce, mais seul le résultat importait.
Si je pense que vous envisagez de lui faire du mal,
dit-elle en foudroyant du regard la nuque de la voyante,
je vous réduirai en cendres avant que vous ayez eu le temps de lever le petit doigt.
Pourquoi lui ferais-je du mal? Richard est la seule personne susceptible de vaincre l'ordre.
C'est exactement ça, oui.
Le sourcier regarda ses deux amis monter les marches en silence. Il s'attendait à plus de résistance chez Kara, mais il n'allait pas se plaindre parce que les choses se passaient trop bien. Zed sourit à son petit-fils. Le premier sorcier était étrangement calme aujourd'hui, tout comme Anna et Nathan. Ils avaient une façon de regarder Richard qui lui donnait des frissons, comme s'il était un fragment de poterie découvert sous une pierre. D'un signe de tête, Zed encouragea le sourcier à aller de l'avant sans perdre de temps. Richard entendit dans son dos le bruit caractéristique de l'eau. Se retournant, il vit que la fontaine fonctionnait de nouveau, produisant la couverture sonore dont Shota avait besoin. Assis sur le muret de marbre, lui tournant aux trois quarts le dos, la voyante faisait glisser le bout de ses doigts dans l'eau limpide. Quelque chose dans sa posture donna la chair de poule à Richard. Lorsqu'elle se tourna vers lui, il sursauta en reconnaissant le visage adoré de sa mère.
« Richard !»
murmura-t-elle. Une voix si vibrante d'amour. Depuis la dernière fois qu'il l'avait vue, elle n'avait pas pris une ride. Voyant que son fils ne bougeait pas, la splendide femme se leva.
« Richard !»
dit-elle d'une voix aussi mélodieuse que le chant de la fontaine.
« Tu m'as tellement manqué !»
Enlaçant son fils d'un bras, elle lui glissa son autre main derrière la nuque et plongea son regard dans le sien.
« Oui, tellement manqué !»
Richard se secoua intérieurement, chassant au loin des émotions absurdes, car il avait parfaitement conscience de ne pas être en présence de sa mère. Lors de leur première rencontre dans la longe d'Agaden, Shota avait eu recours au même stratagème. Elle avait adopté l'apparence de la mère du sourcier, morte dans un incendie alors qu'il était encore très jeune. À l'époque, Richard avait eu envie de décapiter la voyante avec son épée car il trouvait abjecte la ruse de son interlocutrice. Ayant lu dans son esprit qu'il voulait la tuer, Shota lui avait reproché de ne rien comprendre à rien. L'apparence qu'elle avait choisie, à l'en croire, était un hommage vibrant à l'amour éternel qui unissait Richard et sa mère. Pour faire cette joie à son visiteur, elle avait consenti un sacrifice dont il ne mesurerait jamais la valeur. Cette fois, Richard doutait beaucoup qu'il puisse s'agir d'un hommage ou d'une gentillesse à son égard. Instruit par l'expérience, il décida de garder son calme et d'attendre de plus amples explications. Shota, merci de me restituer de touchants souvenirs, mais pourquoi est-il indispensable de te présenter à moi sous cette apparence? La voyante plissa le front sans reprendre son visage habituel.
Barakas, ce nom te dit quelque chose?
Richard eut de nouveau la chair de poule. Posant délicatement les mains sur les hanches de Chota, il l'écarta en douceur de lui. Au temps des grandes guerres, il y avait un premier sorcier de ce nom. Du bout d'un doigt, Richard souleva l'amulette qui pendait à son cou. Ce bijou lui appartenait.
La mère du sorcier acquiesça. C'est bien cet homme, un grand sorcier de guerre.
Oui.
Comme toi.
Richard s'empourpra de s'entendre qualifier de grand par sa mère, même si ce n'était qu'un simulacre. Il savait utiliser ses pouvoirs, moi j'en suis incapable.
Un petit sourire, image fidèle de ses plus lointains souvenirs d'enfance, s'afficha sur le visage revenu du fond des temps. La véritable mère de Richard le gratifiait toujours de ce sourire quand il avait bien négocié les difficultés d'une leçon plus complexe que la moyenne.
Chota pensait-elle que ce souvenir avait un sens particulier aujourd'hui? Ou voulait-elle simplement lui faire plaisir?
Sais-tu ce qui est arrivé à Barakus?
Eh bien, oui, en un certain sens. Il y avait des problèmes avec le Temple des Vents. Pour le protéger et préserver son précieux contenu, le monument avait été envoyé dans un autre monde.
Dans le royaume des morts,
corrigea la mère de Richard. C'est ça, oui. Barakus est allé tenter de résoudre le problème.
Comme toi, bien longtemps après lui.
Eh bien, oui. La mère de Richard lui ébouriffa les cheveux comme s'il était encore un petit garçon, puis elle le regarda de nouveau dans les yeux.
Barakus est allé dans le temple pour toi.
Pour moi? Que veux-tu dire?
La magie soustractive était enfermée dans le temple des vents, au cœur du royaume des morts. Aucun sorcier de guerre n'aurait pu naître avec les deux variantes du don.
Richard se demanda si la voyante puisait les informations dans son esprit ou croyait sincèrement lui apprendre du nouveau sur cette histoire. « Après avoir étudié les écrits de l'époque, dit-il, c'est ce que j'en étais venu à soupçonner. Si plus personne ne naissait avec le don soustractif, c'était donc bien à cause du temple.
« Pourtant, tu es venu au monde. »
« Tu veux dire que Barakus, pendant qu'il était dans le temple, a fait en sorte que quelqu'un puisse un jour naître avec les deux facettes du don ?»«
Quand tu dis « quelqu'un », tu as bien conscience qu'il s'agit de toi. »«
Encore une fois, que veux-tu dire ?»«
Depuis le départ du temple, personne n'est né avec le don soustractif et aucun sorcier de guerre n'avait plus arpenté le monde. »
Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, et même dans ce cas...
Sais-tu ce qu'a fait Barakus après son retour du Temple des Vents?
Richard fut pris de court par cette question. Quel rapport avait-elle avec tout le reste? Oui, il s'est suicidé en se jetant dans le vide.
Depuis des créneaux qui dominaient l'endroit où serait plus tard construit le palais des Inquisitrices?
Probablement, oui.
Mais avant de se tuer, il a laissé quelque chose pour toi.
Pour moi, répéta Richard, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien compris. Tu en es certaine?
Les documents que tu as consultés ne disaient pas tout. À son retour du temple avant de se suicider, Barakus a confié un livre à sa femme et il lui a demandé de le cacher dans sa bibliothèque.
Sa bibliothèque?
Sa bibliothèque secrète, oui.
Richard eut l'impression de s'engager sur un terrain très glissant. « J'ignorais qu'il avait une femme. »«
Au contraire, tu la connais. »
Voyant l'étrange sourire de sa mère, Richard eut des frissons glacés cette fois. « Comment ça, je la connais ?»«
Si je te le dis, sais-tu quel sorcier a créé la première inquisitrice ?»«
Oui, » répondit le sorcier, désorienté par le brusque changement de sujet. La première inquisitrice, Magda Cyrus, fut créée par un sorcier nommé Merit. Ils sont représentés tous les deux sur un plafond du palais des inquisitrices.
Eh bien, c'est cette femme, l'épouse de Barakus.
Pardon?
Magda Cyrus.
Non, non, tu te trompes.
Elle était mariée à Mérite, celui qui l'a transformée en inquisitrice.
Après, oui.
Mais Barakeus était son premier mari.
Tu en es certaine?
Oui. Lorsque Barakeus est revenu du temple des vents, Magda Cyrus l'attendait dans l'enclave privée comme c'était entendu. Elle s'était rongé les sangs pendant des jours, craignant de ne plus jamais le revoir. Mais il finit par se remontrer. Il l'embrassa, l'assura qu'il l'aimerait toujours, puis, après lui avoir fait jurer de se taire, l'envoya déposer un livre dans sa bibliothèque secrète. Dès qu'elle fut partie, il laissa sa tenue complète, amulette comprise, à l'attention du sorcier de guerre qui naîtrait un jour, puisqu'il avait fait ce qu'il fallait pour ça. Cet héritage t'était destiné, Richard.
Pourquoi moi? Je veux dire, spécifiquement? C'est absurde.
Vraiment? Pourquoi penses-tu que tant de prophéties parlent de toi? Le caillou dans la mare, l'élu, le messager de la mort, et même le Kaharin. Si toutes ces prédictions te concernent, serait-ce parce que tu es un individu sans importance ni spécificité? D'après toi, comment se fait-il que tu aies interprété des textes sur lesquels des experts se cassaient les dents depuis des siècles, et que tu aies réalisé les quelques prédictions qu'ils étaient parvenus à déchiffrer?
Certes, mais ça ne veut pas dire que tout ça m'était destiné.
La mère de Richard eut un geste fataliste.
Qui peut savoir dans quel sens ça fonctionne? La magie soustractive a-t-elle fini par trouver un enfant capable de l'accueillir? Ou a-t-elle reconnu celui qui était de toute éternité destiné à lui permettre de revenir dans le monde? Les prophéties ont besoin de se développer autour d'un solide noyau. Il faut un point d'ancrage pour que ce qui doit être existe enfin. Et tant pis si ce noyau est simplement la couleur de tes yeux transmise par tes ancêtres. Un déclencheur est nécessaire, Richard. Dans le cas qui nous occupe, tu crois que c'est le hasard ou la destinée?
Je pencherai pour une série d'événements aléatoires.
Si ça peut te faire plaisir. Mais au point où nous en sommes, est-ce vraiment important? C'est toi qui es né avec le pouvoir soustractif que Barakeus s'était arrangé pour libérer de sa prison dans le royaume des morts. Tu es le sorcier de guerre qu'il voulait voir naître. Destin ou hasard, on s'en fiche, le résultat est là.
Richard dut admettre que c'était exact.
La façon dont arrivaient les choses ne changeait rien au résultat final.
Sa mère soupira puis reprit le fil de son récit.
Lorsqu'il eut préparé ce qui se passerait tôt ou tard dans l'avenir, Barakeus sortit de son enclave et alla se jeter dans le vide. Les rédacteurs des différents textes que tu as lus ignoraient qu'il était revenu depuis assez longtemps pour confier une mission secrète à sa femme. Lorsqu'elle fut de retour, Magda Cyrus découvrit que son mari s'était donné la mort.
Richard en avait le tournis. Il n'en croyait pas ses oreilles, tant ses révélations le perturbaient, mais il savait d'expérience, pour avoir été dans le temple, que de telles choses étaient possibles. Afin de retourner dans le monde des vivants, le sorcier avait dû renoncer aux connaissances glanées dans le temple. Il gardait cependant le souvenir de l'incroyable richesse de ce savoir. Le fantôme de Darkenral, son véritable père, avait exigé qu'il se défasse de ses trésors avant de revenir près de Kalan.
Le cœur brisé, Magda Cyrus se porta volontaire pour être le cobaye d'une expérience imaginée par le sorcier Mérite. Elle savait que ses chances de survie étaient très minces, mais après la perte de son mari adoré, elle n'en avait rien à faire. Vivre ne l'intéressait plus, son ultime désir étant de trouver les responsables de la mort de Barakeus, car elle savait que son suicide n'avait pas de motif personnel. Contre toute attente, Magda survécut. Beaucoup plus tard, elle tomba amoureuse de Mérite, qui lui rendit ses sentiments. Alors, cette femme si triste revint à la vie. Les écrits de cette époque sont souvent imprécis sur la chronologie, mais je peux t'assurer que Mérite fut son second époux.
Richard se laissa tomber sur le muret de marbre, les jambes presque coupées. Ces révélations bouleversaient sa vision du monde. Le hasard insidieusement devait laisser sa place au destin. La liste des coïncidences donnait le vertige. Alors que Barakus était le dernier sorcier de guerre à avoir exploré le temple des vents, Richard Rahl, des millénaires plus tard, était né avec les deux facettes de la magie et avait également séjourné dans le temple. Alors que Barakus était marié à la première inquisitrice, Richard avait aimé et épousé une autre inquisitrice, la dernière survivante de toutes, pour ne rien simplifier.
Lorsque Magda Cyrus utilisa son pouvoir sur le traître Lothain, les sorciers de l'époque découvrirent ce qu'il avait fait dans le temple des vents. Jusque-là, seul Barakus l'avait su.
Et qu'avait-il fait, ce traître ? Richard releva les yeux et eut le sentiment que ceux de sa mère lisaient jusqu'au plus profond de son âme.
Lorsqu'il était dans le temple, Lothain a trahi en s'assurant qu'une certaine magie, censément emprisonnée à jamais dans le royaume des morts, puisse revenir un jour dans le monde des vivants. L'empereur Jagang est né avec ce pouvoir très particulier, celui de quelqu'un qui marche dans les rêves.
Mais pourquoi Lothain, un procureur en chef, aurait-il commis un forfait pareil ? N'était-ce pas lui qui avait fait condamner à mort l'équipe du temple à cause des ravages qu'elle avait perpétrés ?
Comme les gens de l'ancien monde, il devait s'être peu à peu convaincu qu'il fallait rayer la magie de la carte de l'univers. Sa tendance au fanatisme a ainsi trouvé un nouvel ancrage, et il s'est pris pour le sauveur de l'humanité. Afin d'en terminer avec la magie, il s'est assuré qu'un être comme Jagang vienne un jour au monde pour se lancer dans une guerre sainte. Pour une raison inconnue, Barakus fut incapable de fermer la brèche créée par Lothain. Ne pouvant pas corriger la trahison, il décida de la contrebalancer. En d'autres termes, de permettre la venue au monde d'un adversaire à la hauteur de celui qui marche dans les rêves. Toi, Richard. Barakus a tout prévu pour que tu sois en mesure de t'opposer au fléau déchaîné par Lothain. C'est pour ça que nul autre que toi ne peut terrasser l'ordre.
Richard se demanda s'il n'allait pas vomir. Ainsi, il n'était donc qu'un pion dans une partie d'échecs cosmique, une marionnette qui jouait docilement le rôle que d'autres avaient écrit pour elle des milliers d'années plus tôt. Comme si elle lisait dans son esprit, Shota, toujours la fidèle image de sa mère, lui posa tendrement une main sur l'épaule.
Barakus s'est assuré qu'il y aurait un sorcier de guerre pour s'opposer à Jagang. Il n'a pas décidé à l'avance de la façon dont tu te comporterais, ni pris les décisions à ta place. Le libre arbitre fait partie de l'équation, Richard.
Tu en jurerais ? Moi, j'ai l'impression d'avoir été manipulé depuis le début. Je ne vois pas ce que j'ai choisi là-dedans. À chaque intersection, d'autres ont déterminé le chemin que je devais prendre.
C'est faux, Richard. On pourrait plutôt dire que tu as été entraîné à la bataille comme un soldat. Grâce à cette formation, tu as toutes tes chances de vaincre si tu dois un jour te retrouver au milieu d'une guerre. Mais qui empêche un soldat, même entraîné à la perfection, de déserter lorsque le danger se profile? Qui peut garantir qu'il fera face? Et s'il ne se dérobe pas, comment être sûr qu'il gagnera? Barakus a fait en sorte que tu aies le potentiel, Richard. Il t'a fourni l'équipement, les armes et les compétences requises pour défendre ta liberté et celle du monde si le besoin s'en faisait sentir. Il t'a aidé. Rien de plus.
Une main tendue à travers le gouffre du temps, pensa Richard. Désorienté et épuisé, il avait l'impression de ne plus savoir ce qu'il était, qui il était et dans quelle mesure sa propre vie lui appartenait. L'avait-il forgé librement, ou n'était-il qu'un pantin dont on tirait les ficelles ? Barakus lui apparaissait désormais sous les traits d'un fantôme, revenu de la poussière, afin de le hanter à chaque seconde de sa vie.